auditeurs, chères auditrices de Mets de Résistance 88.4, bonjour. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle semaine, ou plutôt elle a déjà commencé aujourd'hui, lundi. Aujourd'hui, on va faire un petit tour de l'actualité, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées ces derniers temps. Il y a toujours la guerre en Ukraine. Et sur le plan international, dernièrement, le Congrès a refusé à l'Ukraine une aide complémentaire qu'il demandait. On verra bien comment le conflit évolue et comment ça va se passer. Toujours est-il que depuis la semaine dernière, il y a un autre front marqué de guerre dans le monde, qui est aussi très important, qui est celui mis en avant par le conflit israélo-palestinien dans la bande de Gaza. Donc on est aujourd'hui dans une période difficile et agitée, avec une menace de guerre qui plane un petit peu au-dessus de nos têtes. C'était déjà le cas depuis 2022 avec le conflit en Ukraine, et ça s'est encore aggravé. Alors à ce sujet-là, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un autre front qui se développe, qui s'est arrêté. C'était le front du Haut-Karabakh, puisque l'Azerbaïdjan dernièrement a fait plier par force les autorités autoproclamées du Haut-Karabakh. Il y avait un conflit et un accord de cessez-le-feu a été signé mercredi 20 septembre, donc il n'y a pas très longtemps, sous l'égide de la Russie, mettant fin à une offensive à grande échelle lancée par les forces de Bakou sur l'enclave disputée. Donc je rappelle que l'Azerbaïdjan se dispute avec l'Arménie une enclave qui est celle du Haut-Karabakh. Donc c'est qui est une marque de relatif échec des politiques qui ont été mises en place après la Première Guerre mondiale de découpage territorial. Ce tournant historique marque la victoire de Bakou pour le contrôle de cette région montagneuse du Caucase qui est située sur son territoire mais qui est peuplée en majorité d'Arméniens. Le texte prévoit le retrait des unités et des militaires restants des forces armées de l'Arménie, la dissolution et le désarmement complet des formations armées de l'armée de défense du Haut-Karabakh. Il précise que la tenue d'un premier cycle de négociations sur la garantie des droits et de la sécurité des habitants de l'enclave se tiendra entre les deux parties, et ça c'était le 21 septembre dans la ville azerbaïdjanaise de Yevlak. L'Azerbaïdjan a ainsi rétabli sa souveraineté dans le Haut-Karabakh, triomphe ainsi les dirigeants de l'Azerbaïdjan. Et ceux-ci ont bien insisté sur le fait que leur armée avait détruit la plupart des forces et des équipements des séparatistes arméniens et que ceux-ci avaient commencé à rendre les armes. Donc voilà, il va falloir attendre que tout ça se confirme et qu'il n'y ait plus de conflit. Cela dit, ce qui n'empêche que la victoire de l'Azerbaïdjan crée cependant un dangereux précédent qui semble justifier le recours à la force plutôt qu'à la diplomatie. C'est Richard Giragosian, géopolitologue, qui le disait juste après le 21 septembre. Ce pays, l'Azerbaïdjan, défie clairement la Russie et humilie les soldats de la paix russe déployés dans le Haut-Karabakh. Il défie aussi l'Occident et sape les valeurs occidentales en cherchant une issue militaire à un conflit essentiellement diplomatique. L'Arménie, premier soutien du Haut-Karabakh, a assuré qu'elle n'a pas participé à la rédaction de l'accord de ce mercredi-là sur le cessez-le-feu. Donc, en fait, ce sont les Arméniens du Karabakh eux-mêmes qui ont signé les accords du cessez-le-feu. Alors, ce n'est que partie remise, puisque forcément, la véritable résolution du conflit ne pourra se solder que par une entente finale entre les parties, puisque, en fait, je le rappelle, l'enclave caucasienne qu'est le Haut-Karabakh fait partie du territoire de l'Azerbaïdjan, Mais il est peuplé majoritairement d'Arméniens qui souhaiteraient être, pouvoir être arméniens. Donc le fait que les cessez-le-feu aient été donnés et que le conflit se soit arrêté ne règle pas le problème, puisque de toute façon, à un moment ou à un autre, il faudra bien que les parties finissent par s'entendre pour que les Arméniens qui habitent le territoire du Haut-Karabakh puissent être satisfaits. Et c'est là qu'intervient justement l'idée potentielle d'une création du droit international que j'appelle le tous mes voeux, puisque j'ai déjà écrit, je suis en train d'écrire un livre pour expliquer de quoi il s'agit, qui s'appelle L'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Ça fait un certain nombre d'années que je suis dessus, parce que j'y vais, des fois je m'arrête de l'écrire et puis je repars sur autre chose, mais j'ai quand même publié pas mal d'articles sur cette idée-là. Je pense qu'au niveau international, il faudrait créer un précédent juridique qui permette aux États qui le souhaitent d'avoir une double, voire une triple nationalité. Par exemple, sur le territoire azerbaïdjanais, puisque en l'occurrence c'est le cas aujourd'hui, au lieu de régler les conflits par la force armée, ce qui ne fait que reporter la résolution réelle du conflit à des années plus tard, en menaçant, en laissant peut-être la porte ouverte à d'autres conflits qui seraient meurtriers, moins il y a de conflits, mieux c'est, on devrait pouvoir permettre au territoire du Haut-Karabakh d'avoir une double nationalité, c'est-à-dire de rester azerbaïdjanais conformément aux frontières telles qu'elles ont été définies au départ, tout en ayant également une nationalité arménienne. Ce serait une enclave qui serait à la fois arménienne et azerbaïdjanaise, une enclave que l'on pourrait meublé sur le plan institutionnel par une création ex nihilo qui serait une création de pays. Donc ça, c'est ma théorie que j'ai exposée à plusieurs reprises dans mon blog où j'explique ma conception d'un nouvel ordre international plus pacifique. En fait, sur un état donné, il y a différents territoires et ces territoires-là, on peut leur donner une dimension supranationale. C'est-à-dire que au-delà du découpage territorial classique, donc il y a le découpage. Alors, je prends l'exemple de la France. En France, il y a un découpage territorial primaire qui date de Napoléon Ier, qui est la déconcentration. Et puis après, la déconcentration, c'est la marque de la présence de l'État au sein du territoire. Et puis après, il y a la décentralisation qui intervient. La décentralisation, c'est de l'autonomie laissée aux collectivités locales qui s'administrent librement. Ça, c'est la loi de décentralisation de 1983. Et puis, 82-83. Et puis, ces collectivités territoriales donc, sont découpées différemment selon les pays, départements, régions, communes. Sachant que la commune, c'est la plus petite entité, c'est l'entité de base, l'entité la plus petite. Alors, donc, je disais, pour en revenir au territoire, qu'en France, il y a donc trois degrés différents d'aménagement territorial qui partent de la déconcentration, présence de l'État dans le territoire, très forte, en passant par la décentralisation avec des collectivités locales indépendantes et autonomes, pour aller vers ensuite un troisième degré d'aménagement territorial qui se dessine aujourd'hui, même s'il n'est pas encore formel, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore vraiment institutionnalisé, à part peut-être pour chez nous en France, avec la communauté européenne d'Alsace, qui est une création ex nihilo, qui s'est formée sur le tas, sans référent constitutionnel pour l'instant, mais qui peut-être le sera un jour. Et en fait, celle-ci est un exemple très proche de ce que j'annonçais tout à l'heure, c'est-à-dire un territoire français qui a un troisième degré d'aménagement territorial, celui des pays, des pays qui recoupent les territoires historiques sur lesquels se sont développées des sociétés et des civilisations, ainsi que certaines formes d'activité économique. Ces territoires, par exemple, en Alsace, c'est très fort. Vous avez le territoire de la Rhénanie qui est à cheval entre l'Allemagne et la France, qu'on appelle le pays rhénan, qui est encore très marqué historiquement. Vous avez aussi, par exemple, le pays breton qui peut éventuellement trouver des accointances avec son homologue en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Vous avez aussi le pays catalan qui est à cheval entre l'Espagne et la France. Et en fait, je pense que ces territoires-là, qui sont des pays, devraient pouvoir être reconnus officiellement et institutionnellement, et qu'ils pourraient être à l'origine d'une prise en compte très concrète de la dimension extraterritoriale de ces territoires. Quand je parle de dimension extraterritoriale, je veux parler d'une dimension qui va au-delà du territoire d'un État ou d'une nation, qui va au-delà des frontières et qui s'étend au-delà de la question de la nationalité, qui s'étend sur deux pays, voire trois pays différents. C'est un modèle qui est très intéressant parce qu'il permet de concilier les perspectives nationalistes, c'est-à-dire les frontières telles qu'elles sont mises en place, telles qu'elles ont été reconnues officiellement, ainsi que les gouvernements et les lois d'un pays avec l'appartenance historique du territoire concerné à une dimension plus ouverte et plus international et plus large, qui le met en rapport avec un autre État duquel il peut retirer certains avantages si la législation européenne ou internationale le reconnaît. Par exemple, et ce modèle peut s'exporter vers tous les États du monde, c'est un modèle qui est universel. Par exemple, en Ukraine, l'Ukraine est un État qui devrait vraiment être au moins à binationalité, parce que si on lit bien tous les auteurs qui parlent de l'Ukraine, il y en a beaucoup qui nous expliquent qu'en fait, en Ukraine, ceux qui habitent à l'Est sont pro-russes parce qu'ils sont souvent d'origine russe, et ceux qui habitent à l'Ouest sont plutôt pro-occidentaux parce qu'ils sont plutôt tournés vers l'Occident. Et le problème ukrainien n'est pas si simple que ça. S'il n'y a pas des gros méchants russes qui sont d'un coup venus perturber l'ordre, c'est tout simplement parce qu'il y a eu une propagande aussi qui a été faite en Ukraine pour que l'Ukraine se mette du côté de l'Occident, de façon à ce que l'Empire soviétique à son époque ne soit pas trop puissant, de façon à ce que l'Empire russe après la chute du mur et la fin du bloc ne soit pas trop puissant et n'ait pas trop d'accroche à l'Est. Donc c'est aussi cette raison-là qui explique qu'en Ukraine ça se passe pas bien en ce moment. Donc il n'y a pas que la Russie qui est en cause dans tout ça, et il y a une partie du territoire ukrainien et de la culture ukrainienne qui est proche de la Russie, même si une autre partie est aussi proche de l'Occident. Et c'est une chance, je pense, et un point positif pour l'Ukraine. Au lieu de le voir comme un point négatif, il faut le voir comme quelque chose de très positif qui peut permettre à l'Ukraine d'être à devenir encore un pays très riche et aussi un pays tampon, puisque à cheval entre deux visions du monde qui sont la vision occidentale et la vision orientale. Et pour cela, il faudrait que à l'ONU, on reconnaisse aux États et notamment à l'Ukraine la possibilité d'avoir une binationalité. Chaque Ukrainien serait d'abord ukrainien, et puis après, il choisirait d'être ukrainien portés vers l'Occident ou un ukrainien porté vers la Russie. Et à ce moment-là, on créerait deux pays différents au sein de l'Ukraine. Attention, par pays, j'entends pas un pays supposant une nationalité particulière ou un découpage de frontières particulier. C'est vraiment un découpage qui est extraterritorial et qui vient s'ajouter aux autres découpages, il ne les annule pas. Au contraire, il les prend comme socle pour aller vers l'avant. Et il ne les remet pas en question. Simplement, il les dépasse. Il les dépasse, mais c'est une troisième dimension territoriale qui devrait être prise en compte officiellement. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce que on fait partie d'un pays ukrainien pro-russe qu'on n'est pas ukrainien. On est d'abord ukrainien et ensuite on peut, au sein du pays ukrainien pro-russe qui est plutôt à l'est, on noue des relations avec les Russes qui sont de l'autre côté de la frontière et on fait des choses en commun, on crée des assemblées régionales consultatives pour pouvoir émettre des doléances et soumettre des propositions aux deux États que sont l'Ukraine et la Russie, qui sont les deux États de référence du pays. On leur soumet des doléances et des idées pour que ceux-ci légifèrent en faveur du territoire concerné. Et en fait, les décisions qui seraient prises ne concerneraient que les habitants de ce territoire-là, qui sont pour certains ukrainiens et d'autres russes. Et de l'autre côté, du côté occidental, pro-occidental, on fait pareil. Donc pour l'Azerbaïdjan, c'est pareil. Le Haut-Karabakh pourrait très bien former un pays avec les Arméniens qui sont de l'autre côté du territoire. Et donc, il y aurait un pays azerbaïdjanais et arménien à la fois. Avec, après, chacun fait ce qu'il veut, une reconnaissance des langues respectives de l'une et de l'autre partie. Ce qui voudrait dire que, en fait, les gens qui habitent le Haut-Karabakh, ils sont d'origine arménienne, mais ils sont de nationalité azerbaïdjanaise. Mais en même temps, ils nouent des relations avec les gens qui sont de l'autre côté de la frontière et qui sont arméniens. Et ça fait un territoire, un pays, entre guillemets, particulier, qui peut avoir ses propres réglementations, à condition qu'elles ne supplantent pas et qu'elles ne contredisent pas le système législatif de l'une et de l'autre partie. Voilà. Donc, c'est pour ça que tous les conflits qui ont lieu en ce moment. Donc, il y a eu le conflit au Haut-Karabakh. Il y a aussi le conflit en Ukraine. Et puis, il y a aussi, depuis la semaine dernière, le conflit en Palestine, à Gaza. Tous ces conflits-là ne pourront se résoudre vraiment, malgré tous les accords de paix qu'il peut y avoir, que si on met en place ce système de création de pays qui sont en fait un troisième degré de reconnaissance territoriale, ayant beaucoup moins d'attributs et de pouvoir que les États, qu'un État, mais qui malgré tout jouissent d'une reconnaissance. Une reconnaissance qui passe d'abord par l'aspect culturel. L'aspect culturel, c'est la langue, le fait religieux, les coutumes, mais également les pratiques économiques traditionnelles. Et donc, à ce niveau-là, c'est très intéressant de pouvoir essayer d'imaginer ce que ça donnerait. Par exemple, en Israël-Palestine, normalement, si on voulait faire la paix, Israël et la Palestine devraient pouvoir cohabiter de manière très pacifique. Et chacun des groupes identitaires, les Israéliens d'un côté et les Palestiniens de l'autre, devraient pouvoir former des pays avec les territoires voisins. On a du mal quand même à imaginer comment Israël pourrait former un pays, entre guillemets, avec un territoire voisin, étant donné que, en fait, Israël est un petit peu coupé de par une volonté de se distinguer sur le plan culturellement des territoires qui l'entourent. Mais je pense que les populations d'origine sémite ont toujours été, ont toujours habité ces territoires-là, et je pense que ça pourrait leur faire beaucoup de bien de créer un pays avec les territoires limitrophes en mettant en avant ce qui les rapproche sur le plan culturel. Et pareil pour les Palestiniens. Donc, et quoi qu'il arrive, même s'il y a la paix, il ne pourra y a, c'est une, souvent une paix factice qui n'empêche pas que les conflits continuent et qu'il continue à y avoir des tensions. Si on veut une paix durable, il faudrait pouvoir instituer ce système de pays qui pourrait être plus ou moins réglementé par ce qu'on appelle des assemblées régionales consultatives. Sur le mode des arches en Kabylie ou des Fokonolova Mivao à Madagascar, qui sont des entités territoriales qui se regroupent en allant du plus local possible, du plus localisé possible, au niveau pour certains de la tribu ou du village, pour aller plus loin des regroupements en matière de des regroupements avec d'autres entités plus importantes, par exemple un regroupement, une fédération de tribus ou une fédération de villes ou de villages, puis puis après pour arriver au niveau national. On remonte progressivement les doléances d'une tribu qui fonctionne ou d'un village qui fonctionne démocratiquement, se regroupe au niveau régional, ensuite au niveau suprarégional et pour aller ensuite au niveau national. C'est ce que j'appelle les assemblées régionales, les assemblées régionales consultatives, qui sont en fait des regroupements, des fédérations de communes qui se regroupent une fois régulièrement, une fois ou deux par an, pour discuter de la manière dont on veut réglementer encore davantage ou légiférer sur le territoire concerné. Et les problèmes remontent vraiment de la base. Donc c'est une entité qui est possible. Les arcs, ça rappelle un petit peu l'arche d'alliance. L'arche d'alliance, dans l'histoire du judaïsme, c'est un symbole de paix. Et donc arche, arc, autant de termes qui se rapprochent de la paix, qui rappellent l'arc-en-ciel. C'est la philosophie de l'arc-en-ciel. Voilà, donc c'était pour en revenir à tous les conflits qui essaiment le monde aujourd'hui, et qui, c'est dommage parce qu'on est, on assiste vraiment à un retour en arrière à tous les niveaux, alors que justement on est en ce moment à un tournant de civilisation qui fait que c'est difficile d'accepter qu'il y ait des conflits qui nous fassent partir en arrière. Mais les conflits peuvent aussi apprendre beaucoup et aider beaucoup à évoluer. Et dernièrement, j'ai remarqué qu'il y avait quelques articles qui sortaient, j'ai vu ça dans Le Monde, qui mettaient en avant peut-être le retour à une plus grande importance d'une justice mondiale, c'est-à-dire une référence à un droit international qui pourrait peut-être finalement être une bonne solution à la résolution de beaucoup de problèmes dans le monde, et je pense notamment au problème des migrations. Là, il y a en ce moment, l'Europe s'entend pour contrer la migration. Le problème numéro un en Europe, c'est bon, il y a l'inflation, mais il y a aussi la crise qu'on appelle la crise des réfugiés. Il faut savoir que le nombre de demandes d'asile a beaucoup augmenté, plus 28% au premier semestre. Ça, c'est Le Monde du jeudi 5 octobre 2023. La question des migrations était au menu du Conseil européen qui s'est tenu à Grenade le 6 octobre dernier, sachant que c'est un sujet qui est facteur de dissension dans l'Union européenne. Depuis la crise des réfugiés de 2015, cela donne lieu depuis quelques semaines à des convergences très importantes. L'Allemagne, qui s'y refusait jusque-là pour des raisons humanitaires, a donné son feu vert jeudi 28 septembre dernier à un texte clé de la réforme du système migratoire européen, ouvrant la voie à un accord global entre les 27. L'Italie tique encore sur la protection accordée aux ONG qui pratiquent le sauvetage en mer et le document prévoit un régime dérogatoire moins protecteur pour les migrants en cas d'afflux massif dans un pays. Donc voilà, la Commission européenne espère que l'ensemble du pacte pour les migrations et l'asile réformant les procédures d'accueil aux frontières et de traitement des demandes d'entrée et des retours aura été adopté d'ici février 2024 avant les élections européennes qui se dérouleront du 6 au 9 juin. Il aura fallu aux 27 4 ans de négociations, de controverses et finalement de rapprochement pour y parvenir en dépit de l'opposition de la Hongrie et de la Pologne au principe de solidarité dans la prise en charge des migrants. C'est difficile, donc est-ce qu'on va arriver vraiment à durcir la réglementation concernant les réfugiés ? C'est très difficile sur le plan humain et sur le plan humanitaire, mais en même temps, on voit bien que ça se passe pas bien. Que dans les États de départ, ceux dont viennent les différents réfugiés, il y a, ça se passe pas bien. On a bien remarqué que ces derniers temps, il y a beaucoup de coups d'État qui sont survenus en Afrique, au moins 5 ou 6. Donc ça veut dire que l'ordre mondial se change. Si il y a eu des coups d'État en Afrique, c'est parce que il y a de nouvelles domination qui s'installe. Je dis domination parce que c'est difficile d'envisager le cas africain sans parler de domination, étant donné que l'Afrique a été considérablement écrasée sous la colonisation, puis sous la post-colonisation de l'Occident. Et maintenant, on profite de leur faiblesse. Ce sont d'autres États qui profitent de leur faiblesse en faisant partir les dirigeants. Les dirigeants alors en place pour que l'hégémonie occidentale qui soutenait ces dirigeants-là laisse la place à une autre hégémonie, celle d'autres États comme la Russie, la Turquie ou la Chine. Donc c'est très important. Donc en même temps, je parle du problème africain pour dire que dans ces États-là, ça ne s'arrange pas. Au pire même, ça s'aggrave, tandis que chez nous, eh bien, ça s'aggrave aussi, puisque finalement, on se retrouve avec beaucoup de populations qui sont étrangères, mais pas des populations étrangères issues de migrations volontaires, mais des populations étrangères qui sont issues de migrations qui n'ont pas été choisies et qui sont souvent, pour beaucoup, quand ce ne sont pas des migrations politiques, des migrations du désespoir. Et donc en fait on le voit bien sur nos territoires européens, on a des gens souvent qui ne sont pas du tout socialisés, on voit bien qu'ils sont pas là depuis longtemps, donc ça crée de nouvelles obligations de la part des États et des autorités pour prendre en charge ces populations là alors même que les populations qui étaient déjà là avant étaient elles-mêmes en difficulté. Donc ça aggrave le problème économique de chaque État européen et ça augmente la charge financière et finalement nous allons nous-mêmes devenir des États qui n'allons plus pouvoir progressivement prendre en main notre économie et la réglementer correctement alors même qu'on était en train d'évoluer, mais d'évoluer de manière très bancale, puisque forcément, comme on n'a pas, comme lors des conférences de Bretton Woods et après 45, en mettant en place le GATT qui est devenu l'OMC, on n'a pas suivi ce que la charte de la Havane préconisait, c'est-à-dire une remontée progressive des économies des différents pays du monde entier en parallèle les uns avec les autres, le développement économique auquel on assistait, même pendant les Trente Glorieuses, c'était quand même un développement économique quelque peu bancal. Et on le paye aujourd'hui, puisque cette situation déséquilibrée, eh bien, finit par faire peser la balance du mauvais côté. Et c'est toutes les économies des États, et avec le progrès économique et social qui va avec, qui est menacé. Donc, il faut quand même, la Commission européenne a raison, il faut absolument régler cette problématique des migrations. Comment ? Tout simplement en durcissant la législation et la réglementation et en laissant moins de personnes venir. Et puis également en s'occupant des populations qui sont déjà sur le territoire. Comment s'en occuper ? Tout simplement, moi je pense qu'une bonne solution serait progressivement, sur un laps de temps d'une durée d'une dizaine d'années, d'obliger les États de provenance dont viennent les populations qui migrent à s'occuper de la couverture sociale de leurs concitoyens. Tout simple, il faudrait, parce qu'il y a quand même de l'argent dans les pays africains, mais c'est parce que cet argent est mal utilisé, ces États-là devraient mettre en place un système d'assurance, de couverture sociale universelle chez eux, et couvrir chacun de leurs citoyens, et faire en sorte que ces citoyens-là, même s'ils se promènent un peu de partout dans le monde, soient toujours... en relation avec leur état de nationalité de base. C'est-à-dire que il faudrait c'est-à-dire qu'en fait par exemple quelqu'un qui vient de Thaïlande reste thaïlandais de nationalité, et s'il vient habiter sur le territoire français, il ne peut y rester que s'il est, il a une couverture, il ne peut entrer sur le territoire français que si il a une couverture sociale émanant de son état d'origine. Ce qui est tout à fait logique, puisque en fait, c'est tout simplement une façon de responsabiliser les différents États par rapport à leurs ressortissants. Pour mettre en place une telle réglementation, il faudrait soit que ça passe au niveau européen, soit tenir tête à l'Europe, à l'Union européenne, pour lui imposer ce qu'on veut, et obliger progressivement, via un travail du Quai d'Orsay, enfin du ministère des Affaires étrangères, via les différentes ambassades et consulats qui sont dans le monde, parlementer pour que progressivement, d'ici un laps de temps de 3 à 5 ans, les États se préparent à assurer la couverture sociale de chacun de leurs ressortissants. C'est-à-dire une couverture maladie, accident, veuvage, pourquoi pas retraite, une couverture de tous les risques. Pour cela, on pourrait très bien passer par une gouvernance menée à la fois par les États, très stricte et très réglementée, et des mutuelles et assurances privées qui pourraient dès lors être triées sur le volet et qui en même temps devraient être débriefées, c'est-à-dire qu'elles devraient obéir à une réglementation des États très stricte. Et ça pourrait être au niveau international, puisque une telle aventure, qui pourrait d'ailleurs être à l'initiative de la France, une telle aventure est une aventure qui ne peut fonctionner que si elle fonctionne au niveau international. C'est pour ça que je parlais du retour du droit international tout à l'heure, via les institutions que nous avons en ce moment à notre disposition, et notamment l'Organisation des Nations Unies. Progressivement, un plan financier pourrait se mettre en place. On pourrait sélectionner un certain nombre de mutuelles et d'assurances qui soit honnête et qui ne soit pas marqué par la corruption, et leur proposer de faire cette couverture des différents risques, moyennant peut-être à chaque fois une certaine participation des États ou une certaine contrepartie de la part des États, mais ça faudrait réfléchir à exactement à quelle modalité on pourrait s'adresser, et faire en sorte que les mutuelles puissent y retirer un certain bénéfice. Moi je pense que oui, elles en retireraient un certain bénéfice, parce que au lieu d'être prises à partie pour rembourser des conflits, pour rembourser des dommages liés à des conflits, elles seraient amenées à couvrir la vie et son évolution. Donc je pense que ce serait beaucoup plus intéressant pour elles, et ça pourrait aussi grandir leurs bénéfices, puisque il y aurait davantage de gens qui seraient concernés par une couverture. Voilà, c'est une idée qui me semble intéressante et à développer. Je pense que si on la développe pas rapidement, ça va vraiment pas bien se passer dans le monde, puisque ça se passe pas bien actuellement, on le voit bien. On ne peut pas continuer éternellement à financer les déficits des États qui sont moins développés. Et on ne peut pas éternellement continuer, de toute façon, ça c'est sûr, on ne continuera pas éternellement à vivre dans des économies occidentales prospères si on ne règle pas ce problème maintenant. Donc, interdire aux citoyens qui sont sur le territoire français de venir, d'y rester et même d'y entrer si elles ne sont pas couvertes socialement, eh bien, c'est considérablement protéger notre territoire. Se retrouver sur un territoire dans lequel les gens qui, sur lequel les gens qui y habitent ne sont pas en état d'attente d'autre chose ou en transit, mais avec des populations qui s'investissent sur le territoire et dans la société dans laquelle elles évoluent, moyennant un accès à la citoyenneté française pour certains qui sont à condition qu'ils soient couverts sur le plan assurantiel par l'intermédiaire de leur état d'origine au bout de 5 années de vie en France. On peut, si on a une activité associative ou dans le monde du travail, on peut très bien envisager d'avoir la nationalité française si on le choisit. Je pense que ce serait une très bonne façon de réguler les flux de population sur le territoire français, et je pense que c'est la seule solution qui pourrait permettre que dans le monde ça s'arrange. Je parlais enfin d'autre chose, je parlais de la Cour internationale de justice qui fait son grand retour, parce que en parlant d'une instance internationale, je pense que c'est très important d'évoquer la place de la Cour internationale de justice, sachant que j'ai toujours prôné une primauté du droit international, alors que c'est pas le cas du tout. Aujourd'hui, on a une primauté du droit européen, mais pas du tout une primauté du droit international. Au contraire, celui-ci est sans cesse bafoué. Alors qu'en 1945, quand on a mis en place les institutions de l'Organisation des Nations Unies, il était vraiment question, avec notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, de mettre en place une primauté du droit international. Et ça, on est passé complètement à côté. Et donc aujourd'hui, il faudrait essayer de travailler sur un retour vers cette idée d'une primauté du droit international. Pour moi, un État devrait d'abord appliquer le droit international, puis le droit de l'Union à laquelle il adhère, si c'est le cas, et puis ensuite son droit national. Et je trouve que c'est vraiment dommage qu'on soit passé à côté de ça. Donc la Cour internationale de justice, juste avant le conflit qui a eu lieu, qui a commencé le week-end dernier en Israël, et en Palestine, à Gaza, la Cour internationale de justice faisait parler d'elle parce qu'elle planchait, elle commençait à plancher sur le dossier ultra sensible de l'occupation des territoires palestiniens par Israël. Il y a eu une saisine des juges de La Haye qui a découlé d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 30 décembre 2022 par 87 États avec 53 abstentions et 26 votes contre. Et la Cour devait se prononcer sur les conséquences juridiques de la violation par Israël du droit des Palestiniens à l'autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongée du territoire palestinien depuis 1967. Les magistrats sont chargés de statuer sur la légalité de l'occupation israélienne 5-6 ans après son démarrage. L'avis des juges n'est pas contraignant, mais leur voix porte. C'est le cauchemar des Israéliens que cette question soit désormais entre les mains de la justice internationale, confie un diplomate européen. Ça, c'était dans Le Monde du vendredi 22 septembre 2023. Et donc les États partis à la Cour internationale de justice ont eu jusqu'au 25 juillet pour déposer un mémoire écrit si elles le souhaitaient. Et 54 pays, dont les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, dont nous, et 3 organisations internationales, l'Union africaine, la Ligue arabe et l'Organisation de la conférence islamique, se sont exprimés. Ces contributions ont été rendues publiques au démarrage des audiences, rendues publiques au démarrage des audiences qui auront lieu à La Haye dans quelques mois. Donc l'avis des juges aura lieu peut-être l'été prochain, voire à la fin de l'année prochaine, c'est-à-dire en décembre 2024. Voilà. Donc, la grande majorité des mémoires écrits reconnaissent la compétence de la Cour. La France en a déposé un. Un texte d'une vingtaine de pages qui a été élaboré par le Quai d'Orsay, qui réaffirme le caractère illégal de la colonisation, rappelle les obligations légales de l'occupant dans les territoires occupés, y compris à Jérusalem-Est, et constate le risque d'une annexion par le fait accompli, a précisé au Monde une source proche du dossier. Donc, voilà, il y a quelques États quand même qui contestent la saisine de la CIJ, dont le Royaume-Uni. Londres soutiendrait que la Cour n'a pas les moyens de traiter une question aussi complexe, d'autant plus que Israël n'y a pas consenti. Il considère en outre que rendre un tel avis juridique serait en contradiction avec les accords d'Oslo, qui sont des accords de paix qui ont été signés dans les années 80 entre Israël et la Palestine, et certaines résolutions de l'ONU. Voilà. Les Palestiniens n'étaient pas contents de la position du Royaume-Uni. Et ça, c'était un petit peu avant, justement, le conflit qui a lieu en ce moment. Est-ce qu'il y a des rapports ? Ça, je ne le sais pas. Je ne peux pas répondre. Simplement, je relate ce que je sais. Voilà. Donc, aujourd'hui, on reparle à nouveau du droit international comme un rappel et mais également une prise à partie pour montrer qu'il y a en ce moment des difficultés dans le monde à résoudre certains conflits et qui risquent beaucoup de s'aggraver. J'ai pas l'impression que ça prenne le pli de s'arranger et donc qu'il va falloir forcément trouver des solutions et que le droit international et le recours à une instance internationale peut en faire partie. Voilà, chers auditeurs, on va finir l'émission avec une chanson qui est une chanson d'Alpha Blondie qui a toujours milité et chanté en faveur de la paix dans le monde. C'est une chanson qui est ancienne maintenant, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire, qui s'appelle Jérusalem. Bonne soirée et passez une excellente semaine. À la semaine prochaine.
Baruch ata Adonai.
Baruch ata Adonai.
Baruch abba Yerushalayim.
Baruch
ata Adonai. Baruch Rabba Yerushalayim. Shalom, Salam Aleikum. You can see Christian, Jews and Muslims living together and praying, Amen. Let's give thanks and praises. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Jerusalem, Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime. Israël Ayakirati.